Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parole de notre Seigneur dans l'évangile de Saint Matthieu. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce, qu'il se charge sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi et à cause de l'Évangile, la sauvera. Parole de notre Seigneur encore aussi, qui est transmise par Saint Marc. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Cette fois-ci, parole de notre Seigneur recueillie par Saint Jean. Et c'est un petit peu le résumé de notre vie ici-bas. Il faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut lui être semblable. Donc, il faut prendre sa croix et le suivre. Nous allons parler un petit peu justement de la passion et de la croix dans notre vie, dans la vie chrétienne. Et nous allons commencer par simplement quelques enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ensuite, nous verrons un peu la passion et la croix dans la vie des saints. Et puis, avec le Padre Pio, cette fois-ci, nous verrons donc la passion et la croix plus au quotidien pour nous. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré le chemin. Et la première chose que l'on doit rappeler et dont on doit se souvenir, c'est que la croix a été portée dès l'incarnation par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, à l'incarnation, avait évidemment la science divine, il était Dieu, homme-Dieu, mais aussi la science infuse comme Adam, ou on pourrait dire aussi comme les anges, il avait cette science et aussi sa raison. Il était parfaitement conscient. Et dès cet instant-là, il pouvait offrir, tout offrir à son Père et mériter. Et dès cet instant, il a mérité. Évidemment, dès cet instant de sa conception, il voyait cette passion, il avait cette soif de l'accomplir. Donc il n'a pas seulement souffert la passion les quelques jours avant, enfin les jours de la Pâque où il a souffert cette passion et la croix le jour du Vendredi Saint. Non, il a souffert aussi toute sa vie. Il était tendu vers cette passion, vers cette croix. Il a même dit que c'était un grand désir de voir accomplir cette passion. Il l'a dit à ses apôtres. Donc il désirait cette croix et il l'aimait. Et en plus de cette, on pourrait dire, souffrance intérieure de notre Seigneur Jésus-Christ pendant toute sa vie, dès sa conception, il y a eu aussi cette acceptation de toutes les infirmités de la chair, excepté le péché, vous le savez, c'est un enseignement constant de l'Église, mais il a souffert comme nous, de la faim, de la soif, du froid, de la chaleur, vraiment, il a voulu souffrir comme nous. Et tout cela, tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert, intérieurement et extérieurement, si on peut dire, dans son corps et dans son âme, eh bien, tout cela est pour notre salut. Et finalement, il a dit à ses apôtres, juste avant de les quitter, pour accomplir sa passion, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc le secret, c'est de se donner. Cela prouve donc l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné pour ses apôtres et il s'est donné à ses souffrances terribles de la passion. Ensuite, c'est le moyen que le bon Dieu a choisi pour réparer la faute et réparer donc tous les péchés aussi. Et il faut bien se souvenir que cette, cette souffrance va devenir quelque chose de, on pourrait dire, de très précieux. On le verra un peu plus tard avec le Padre Pio. Et la condamnation donc, de nos premiers parents, donc la peine, le travail pénible, ou aussi les souffrances, donc l'enfantement avec douleur, bien sont une pénitence, certes, pour réparer la faute, mais aussi cela devient quelque chose de plus important encore, c'est-à-dire que la souffrance va devenir, comme notre Seigneur Jésus-Christ, rédemption et pour obtenir bien des grâces du bon Dieu. Par les souffrances, vous savez, on l'a déjà dit, hein, donc on acquiert des mérites. Et entre autres, quand on fait une bonne action, ou quand on supporte une souffrance, eh bien, il y a une valeur pour cette bonne action, une valeur méritoire, donc ça nous concerne nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on gagne des mérites, donc la grâce sanctifiante augmente dans notre âme, mais il y a d'autres valeurs, il y a la valeur satisfactoire, c'est-à-dire que quand on fait une bonne action, qu'on souffre avec patience, eh bien, on obtient des grâces on obtient la possibilité d'éponger la peine du péché encore. Donc il y a une valeur satisfactoire pour le péché. Alors on peut offrir pour nous-mêmes, pour nos propres peines, nos propres peines qui sont dues à nos péchés, ou aussi pour les autres. On peut offrir cette valeur satisfactoire pour les autres âmes, par exemple pour les âmes du purgatoire. Et ensuite il y a la valeur aussi impétratoire qu'on appelle, c'est-à-dire que à chaque fois, on obtient, par cette bonne œuvre ou ces souffrances bien supportées, eh bien, des grâces de prière. C'est-à-dire qu'on obtient, par cette bonne œuvre, la possibilité d'avoir des grâces pour les autres, pour leur conversion, par exemple. Alors, ensuite, ce qui est à remarquer, une dernière chose à remarquer encore pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est surtout la paix dans l'épreuve. Et là, on le voit dans les 7 dernières paroles. C'est vraiment une paix profonde et qui est dans l'âme de notre Seigneur malgré les souffrances. Alors, on pourrait se dire, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai, parce que la première parole de notre Seigneur, c'est « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Donc, bien, si on regarde bien, c'est le début du psaume 21, mais ce n'est pas un psaume vraiment, si on peut dire, de détresse. Bien au contraire, c'est le psaume de la confiance. Et surtout la prière finale, hein, donc, qui est une prière de confiance et d'action de grâce. Et dans ce psaume aussi, il faut noter la partie centrale. Donc il y a la prophétie qui est bien connue. « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont tiré au sort ma tunique. » Donc c'est vraiment une prédiction de la passion dans ce psaume. Et pour les autres paroles, notre Seigneur en croix, c'est la même chose. « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc c'est une parole de pardon à ses bourreaux. Donc c'est aussi une parole de paix, et qui montre donc cette paix intérieure de notre Seigneur. Ensuite, c'est le pardon au bon larron. Donc aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Donc la promesse de la paix parfaite, donc le paradis pour le bon larron. Donc c'est une quelle parole pour le bon larron. Et ensuite après, cette femme, voilà votre fils, et à Saint-Jean, voilà votre mère. Donc c'est encore une parole qui montre toute la préoccupation de notre Seigneur pour la Sainte Vierge, pour Saint Jean. Donc c'est toujours dans le même esprit, un esprit pacifique et plein de paix. Voilà. Puis à la fin, donc, j'ai soif et tout est consommé. Père, je me remets mon âme entre vos mains. Donc c'est la conclusion. Donc tout est consommé. Donc il n'y a plus qu'à terminer cette existence de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et cela, il le fait dans un acte très, très pacifique aussi. Il est tout à fait abandonné à la volonté de son Père. Bon, il y a une dernière petite question encore qu'on peut se poser à propos des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire comment concilier Alors notre Seigneur Jésus-Christ, ses souffrances extrêmes et la paix de son âme. Eh bien, il faut demander la réponse à saint Thomas d'Aquin. C'est pas un franciscain, mais bon, il est très recommandable. Plus que recommandable, bon, enfin. Bien, alors, que nous dit saint Thomas? En parlant de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas rejaillissement de la gloire et de la joie de la partie supérieure de son âme sur la partie inférieure. C'est pour ça qu'il pouvait souffrir dans la partie inférieure, partie sensible, si vous voulez, et dans la partie supérieure. Donc, il y avait cette vision béatifique. Voilà. C'est pour ça qu'on peut concilier les souffrances dans l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Normalement, notre Seigneur, comme il avait donc cette union, hypostatique, on appelle, c'est-à-dire que il y a l'union des deux natures humaines et divines en la personne du Verbe, donc la deuxième personne de la Trinité. Normalement, son corps, pendant toute sa vie sur cette terre, aurait dû être glorieux. On ne peut pas faire autrement, si on peut dire. Si ça avait été la normale, notre Seigneur aurait dû être comme il l'a été sur le Tabor, tout le temps. Et c'est donc un miracle que notre Seigneur a fait de se maintenir comme un homme comme les autres. Normalement, il aurait dû être avec un corps glorieux, puisque l'âme avait cette vision béatifique. Donc, comme les autres, comme tous les saints à la fin du monde auront cette vision béatifique, auront un corps glorieux, ben, notre Seigneur aurait dû avoir la même chose. Bon. Donc évidemment, vous comprenez pourquoi il a pu avoir un corps glorieux, sinon, ben, évidemment, il n'aurait pas pu accomplir la passion, entre autres, voilà. Donc il faut remarquer aussi cela, c'est une violence. Notre Seigneur Jésus-Christ, paraissant comme un homme, c'est une violence à sa nature, parce que normalement, il aurait dû avoir un corps glorieux, donc c'est encore une souffrance. Voilà encore quelques remarques sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce qui est à remarquer aussi, c'est cette vertu de force, avec les vertus qui sont annexes, donc la vertu de douceur et d'humilité, qui sont surtout pour nous un enseignement pendant sa passion. Et cette douceur, par exemple, eh bien, dénote vraiment une maîtrise parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors ensuite, eh bien, cet appel de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il faut aussi prendre en compte pour nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Donc la première chose qu'il faut voir, c'est surtout cette réflexion de l'âme, malgré les épreuves. Et c'est pour cela aussi que on peut avoir une âme en paix malgré les souffrances, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Donc évidemment, notre Seigneur refait les âmes s'il y a besoin, donc en redonnant la grâce, quand on est en état de péché, bien sûr, mais surtout, c'est une réflexion constante de notre âme dans la paix, lorsqu'on est dans l'état de grâce, pour évidemment continuer à porter notre épreuve. Voilà, donc quelques remarques sur notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons un petit peu quelques exemples de la passion de la croix dans la vie des saints. J'ai choisi deux capucins. C'est étonnant. Donc j'ai choisi le Padre Pio, donc le Saint Padre Pio, et puis Sainte Véronique Giuliani, qui était une Clarisse, abbesse Clarisse, capucine. Alors évidemment, vous connaissez le Padre Pio, il y a cette conformité, comme notre séraphique Père Saint-François, vraiment à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il avait reçu les stigmates qu'il a portés exactement 50 ans, donc il était crucifié vivant, si on peut dire, 50 ans. Et il disait lui-même que la souffrance que lui occasionnait les stigmates, c'était comme une brûlure extrêmement vive. Et pas seulement ça, il a souffert évidemment beaucoup d'autres infirmités, un grand nombre de souffrances supplémentaires à ses stigmates. Juste deux mots sur la réception de ces stigmates. Donc le Padre Pio, c'était en 1918, le 20 septembre. Il était à ce qu'on appelle le cœur des religieux. C'est l'endroit où on récite l'office. Et à San Giovanni Rotondo, dans son couvent, c'était en tribune, une tribune assez élevée. Et il était donc en oraison, assis à cette tribune, en face d'un crucifix. Et tout à coup, il était envahi d'une grande paix. Le padre lui-même dit que c'était comme un sommeil d'une grande douceur. Et puis, peu de temps après, il vit un personnage apparaître qui était étrange. Le padre dit lui-même, ses mains et ses pieds et son côté ruisselaient de sang. Et instantanément, à la vue de ce personnage, le padre Pio s'est senti mourir. Tout de suite après, le personnage disparaît et le Padre Pio donc se rend compte qu'il a les mains et les pieds percés et qu'il saigne. Évidemment, il s'est senti mourir, mais il a toujours aussi cette souffrance terrible qu'il a maintenant et qui l'accable. Et il va se traîner jusqu'à sa cellule. Il a plus de force. Donc voilà, c'est la réception de ces stigmates. Le bon Dieu nous donne toujours l'exemple de saints pour bien montrer la voie à suivre pour tous. Et je voudrais aussi relater un épisode qui est arrivé au Padre Pio. Et pour nous montrer que on ne plaisante pas avec la souffrance. C'est quelque chose de vraiment précieux, la souffrance. N'importe quelle épreuve. À cette époque, à San Giovanni Rotondo, il y avait un groupe de personnes qui avaient décidé, dont un prêtre et un religieux en plus, il y avait deux personnes consacrées, et puis d'autres laïcs, avaient décidé de faire une plaisanterie de mauvais goût au Padre Pio. Ils avaient demandé à un jeune homme de simuler une paralysie, et puis de se présenter au Padre Pio. Vraiment de mauvais goût. Et en plus, c'était un vendredi. Le vendredi, le Padre Pio souffrait extrêmement. Donc on demande le Padre Pio au parloir. Évidemment, c'était ce groupe de personnes. Le Padre Pio descend avec difficulté. Et dès qu'il est en présence de cette personne, il ne regarde qu'une personne, le faux paralytique, et lui dit, tu es ici pour te prétendre malade. Et tu es réellement malade. Mais dans ton âme, elle porte des blessures que tu ne peux même pas imaginer. Sache qu'on ne peut pas plaisanter avec la souffrance. Dieu ne le veut pas. Le mal que tu voulais feindre frappe aujourd'hui même ta famille. Alors évidemment, le faux paralytique est affolé. Il rentre chez lui. On lui apprend, son frère vient d'avoir un accident de voiture. Alors il demande, il est mort? Non, non, il n'est pas mort. Il est paralysé à vie. Le faux paralytique, évidemment, le dimanche suivant, on retourne à San Giovanni Rotondo. Et puis, dès qu'il voit le Padre Pio, il se jette à ses genoux et lui dit, pitié, mon père, pitié, j'ai péché. Mais mon frère n'a pas fait de faute, faites qu'il guérisse et pour ce qui me concerne, que le bon Dieu fasse de moi ce qu'il voudra. Alors le Padre Pio lui répond, ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon. Mais prie et rends-toi digne de ce que tu demandes, comme tu étais digne de ce qui t'est advenu. Alors le faux paralytique va revenir souvent à la chapelle pour prier. Et quelque temps après, Le Padre Pio se rend au confessionnal et il longe une file de personnes. Et à son habitude, il ne s'arrête jamais. Il va toujours directement à son confessionnal. Donc, et puis là, il s'arrête et il regarde une personne, mais c'est le fou paralytique, qui est dans un coin, qui est vraiment blotti dans un coin et qui est en train de prier. Il s'arrête, perplexe. Alors ceux qui sont avec le Padre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il va voir cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il regarde le faux paralytique. Puis, finalement, il s'approche de lui, il lui impose les mains et il lui dit quelque chose à l'oreille. Et finalement, plus tard, on apprendra qu'à ce moment-là, le frère du faux paralytique a été guéri miraculeusement. Évidemment, donc, le faux paralytique n'en est pas resté là. Il a même été adopté par le Padre Pio, puisque c'est devenu un de ses fils spirituels et l'un des plus ardents. Mais voyez, donc le Padre Pio a quand même obtenu cette guérison de son frère, mais bon, on peut dire pour vraiment une bonne cause, parce que c'était vraiment la conversion de cette personne, de ce faux paralytique, de ce jeune homme qui avait une trentaine d'années. Donc on ne plaisante pas avec la souffrance. La souffrance est quelque chose de vraiment, on peut dire, même merveilleux. C'est le choix du bon Dieu pour sanctifier les âmes, pour augmenter, si on peut dire, la sainteté de toutes les âmes. On pourrait même dire encore une chose, c'est que si les anges pouvaient nous envier quelque chose, eh bien c'est qu'on peut offrir quelque chose au bon Dieu, c'est-à-dire on peut offrir nos souffrances. Alors, le Padre Pio, bien sûr, obtenait beaucoup de grâces, entre autres des grâces de guérison, mais on peut dire aussi qu'il fallait les payer. Il y a un autre exemple d'une jeune femme qui était très affligée, qui souffrait d'une maladie extrêmement douloureuse, qui l'obligeait à boire des litres d'eau par jour, plusieurs dizaines de litres d'eau par jour, sinon elle souffrait atrocement. Une maladie terrible. Évidemment, cette façon de boire des dizaines et dizaines de litres, évidemment, ça entraînait encore d'autres souffrances. Donc, et ses proches et puis cette personne avaient demandé au Padre Pio de prier, d'intercéder pour elle pour qu'il y ait au moins une amélioration. Alors, le Padre Pio a intercédé, il a obtenu la guérison de cette personne. Mais à quel prix? Il a pris sur lui ses souffrances. Donc les souffrances de la personne, d'une autre manière, mais il a payé cette guérison par des souffrances supplémentaires. Je viendrai un petit peu maintenant à l'exemple de Sainte Véronique Giuliani. Oui, à ce propos, je pense aussi, vous savez, le Padre Pio avait fait... Avec tous les dons qu'il avait eus, il avait fondé cette maison du soulagement de la souffrance, donc ce grand hôpital qui est à Saint-Gervais-Rotondo. Donc, il ne faut pas considérer la souffrance comme uniquement une chose qu'il faut subir. Il y a aussi le devoir aussi de soulager ceux qui sont affligés. C'est aussi dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que le Padre Pio aussi a fait cet hôpital. On doit soulager évidemment les misères de ce monde. C'est d'ailleurs toute l'histoire de l'Église. Ce n'a été que par toutes les œuvres que l'Église a fondées, c'était le soulagement des affligés. Hein, donc. Alors, quelques mots sur Sainte Véronique Giuliani. Juste une remarque sur son éducation. Donc, sa mère était foncièrement pieuse, nous dit un de ses biographes, toute soucieuse de l'âme de ses filles. Elle leur inspirait l'horreur de la toilette mondaine et elle leur enseignait la doctrine et les pratiques religieuses et pieuses. Elle eut 7 filles, 2 moururent en bas âge et 4 se cloîtrèrent. Et la dernière fut Ursule ou Sainte Véronique Giuliani. La petite dernière, donc c'est un peu une histoire comme la famille Martin, donc la petite dernière qui est devenue une grande sainte. Mais ce qui est important, c'est que si elle n'avait pas eu une sainte mère, Sainte Véronique Giuliani, ben elle ne serait pas devenue ce qu'elle est devenue. Donc l'important est l'éducation, vous le savez très bien. Donc surtout aujourd'hui, il faut faire des efforts, mais parfois qui paraissent surhumains. Mais rien ne vaut une âme. Une âme vaut le prix du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on a un devoir de conduire les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Sainte Véronique Giuliani, très tôt, a eu cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ, développé donc, par l'enseignement et l'exemple de sa mère. Bon, je passe parce qu'il y a beaucoup d'épisodes de sa vie, mais je viendrai simplement à... donnerai un exemple, par exemple, excusez-moi, je commence un petit peu à fatiguer. Un exemple de ses souffrances. Elle avait évidemment des apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ, elle avait de grandes grâces, mais en même temps de grandes souffrances. Et une fois, notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît et lui demande de pratiquer un jeûne sévère, qu'on ne pratiquait pas chez les Clarisses, évidemment. C'était de jeûner au pain sec et à l'eau. Alors, elle accepte de grand cœur de la part de notre Seigneur, mais évidemment, comme c'est hors de la règle, il faut demander absolument la permission supérieure. Les supérieurs refusent, et au contraire, ils l'obligent à manger. Bon. Souffrance. Notre Seigneur lui redemande encore de jeûner au pain sec et à l'eau. Refus à nouveau des supérieurs, il l'oblige même à manger de la viande. La pauvre Véronique, la pauvre sœur Véronique, ne peut même pas supporter, elle rejette les aliments. Donc, vous voyez, souffrance de tous les côtés. Et notre Seigneur Jésus-Christ insiste, et il en est même mécontent, lui montre son mécontentement. Elle est prise de tous les côtés, elle est prise de tous les côtés. Eh bien, elle supporte cet état de choses, puis finalement, donc, les supérieurs vont accéder à cette demande. Mais voyez, la vie de communauté, c'était terrible, parce qu'elle avait toutes les sœurs contre elle, son confesseur, etc. Tout le monde était contre elle. Notre Seigneur Jésus-Christ aussi. À quel saint se vouer? Donc, voyez, un petit peu, c'est une vocation vraiment spéciale, donc, qu'a eu Sainte Véronique, bien sûr. Mais elle avait quand même la grâce de supporter tout ça. Tout le monde était contre elle. Et s'est développée en son âme cette soif de la croix, on peut dire, des souffrances. Aussi bien morale que physique, enfin, vraiment tous les genres de souffrances. Et voilà ce qu'elle dit en prière. Donc, je vous veux, Seigneur, venez, venez, je suis dévoré de soif, j'ai besoin de boire, mais je ne veux boire que votre calice, c'est-à-dire les peines et les croix. Donc, elle a vraiment un amour de la souffrance. Bon, ça peut paraître un petit peu incompréhensible. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas aimer la souffrance pour elle-même. Notre nature refuse la souffrance. Elle n'est pas faite pour souffrir. Donc, c'est vraiment un amour surnaturel. Il y a des grâces surnaturelles qui passent par là pour justement... accepter les souffrances, et accepter les souffrances par amour. Notre Seigneur Jésus-Christ a accepté les souffrances par amour pour son Père et pour nous. Là, c'est pareil, c'est un amour d'abord surnaturel pour le bon Dieu, pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la soif vraiment de plaire à Dieu en toute chose, et en particulier pour cette vocation, sa vocation non à la souffrance. Alors, je vous citerai aussi un petit peu cette particularité aussi de la Sainte Véronique Giuliani, je ne sais pas si vous connaissez un peu sa vie, mais elle avait tellement un amour de toutes les souffrances aussi de notre Seigneur Jésus-Christ qu'en son cœur, eh bien, il y avait les instruments de la passion. C'est un phénomène absolument inouï. Donc, notamment, il avait sept glaives dans son cœur. Et son confesseur lui avait demandé, bon, elle s'est approchée en confession, il entendait dans son cœur ce bruit métallique. Bon, il y avait vraiment des choses très, très particulières. Et on l'a retrouvé après sa mort, donc les traces, évidemment, de tout ce qui se passait dans son âme, dans son cœur. C'est une vie vraiment assez exceptionnelle, comme le Padre Pio. Bon, il y a beaucoup d'épisodes, je passe. C'est simplement pour vous montrer, pour Sainte Véronique, cet amour de la sainte, cet amour de la souffrance. Voilà. Pour le reste, bon, c'est un petit peu anecdotique pour nous. Alors, ce qui nous intéresse plus, c'est la passion et la croix dans la vie quotidienne. Et on va prendre comme maître spirituel le Padre Pio. Je commencerai d'abord par une citation d'une lettre qu'il a écrite en 1948 à une carmélite. Bon, mais on peut en tirer un enseignement aussi pour nous, pour tout le monde. Voici ce qu'il écrivait. Un jour, lorsqu'il nous sera donné de voir la lumière dans tout son éclat, alors nous connaîtrons quelle valeur, quel trésor auront été les souffrances terrestres qui nous auront fait gagner la patrie, qui n'aura plus de faim. Des âmes généreuses et passionnées de lui, Dieu attend des actes héroïques et leur fidélité pour arriver après la montée du calvaire jusqu'au Tabor. Le Saint Padre Pio n'a pas fait de traité, évidemment, sur la souffrance et la croix, mais son exemple et en même temps toutes les lettres qu'il a écrites en direction spirituelle sont d'un très riche enseignement. Donc il faut aussi d'abord considérer, comme dit le Padre Pio, en premier ce que produisent, si on peut dire, les souffrances, où nous mènent les souffrances. Eh bien, elles nous mènent à la patrie et on verra, comme il le dit lui-même, donc vraiment ce trésor qu'elles ont été dans notre vie. On sera étonné, comme le bon Dieu, par exemple, a dirigé notre vie avec tout ce qu'elle a eu et comment les souffrances se sont organisées, si on peut dire, pour nous sanctifier et pour nous mener jusqu'au bout. C'est vrai qu'ici-bas, on ne comprend pas la valeur sublime de la croix. On voit d'abord, comme toujours, la souffrance. C'est surtout cela qui nous frappe. Mais l'acceptation d'abord de la croix, c'est la première chose. Puis l'amour de la croix, c'est là où il faut aller, eh bien, sera récompensé. Quelles sont les croix? Eh bien, vous les connaissez. Ça va de la simple petite contrariété jusqu'aux nuits de l'âme, jusqu'aux souffrances spirituelles extrêmes, en passant par toutes les souffrances corporelles, spirituelles, les épreuves de la vie de tous les jours. Et vous connaissez les croix. Eh bien, il faut en laisser échapper aucune. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que Dieu nous aime personnellement. Donc il nous envoie des épreuves très personnelles. Vraiment, celles sont faites pour nous. On dit souvent que la croix est taillée vraiment pour notre épaule. Il y a longtemps, je crois que c'était au noviciat, on racontait une histoire sur les croix. C'est un homme qui se plaint de sa croix tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis un beau jour, notre Seigneur lui apparaît, il dit, bah, écoutez, venez, venez, choisissez votre croix. Alors il l'emmène, alors il arrive, il y a des croix, vraiment, toutes les sortes. Alors celle-ci est petite, elle est peut-être pas mal. Oh, mais elle va mal sur l'épaule. Elle fait vraiment très mal. Puis on cherche l'autre, une autre. Ah, celle-ci. Ah oui, bah, ouais, elle est grande, celle-ci. Ah oui, mais c'est trop dur à traîner, ça. Mais bon, celle-ci, oh, celle-ci, elle est pas mal. Oh, je vais prendre. Etc. Il fait un tour, il essaye, il essaye. Il essaye, et puis finalement, il en prend une. Bon, il la prend. Et puis il dit, ah oui, bah, ouais, celle-ci, ouais, je crois que celle-ci, c'est la meilleure. C'est vraiment celle-ci. Il lui dit, mais écoute, idiot, c'est celle que Dieu a posée, que je t'avais mis sur l'épaule. Donc, le bon Dieu choisit la croix pour nous et parce qu'il nous aime, il nous aime vraiment en particulier. Donc, il faut voir cela aussi avant tout. L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du bon Dieu pour nous. Alors, le premier effet des souffrances pour notre âme, c'est la purification. Et le Padre Pio l'enseigne souvent. Dans ses lettres, cela revient souvent. Et évidemment, cet enseignement ne vient pas nulle part, c'est l'Évangile. Hein, c'est l'unique voie, c'est la croix. L'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voici ce que le Padre Pio écrit. Jésus a choisi la croix pour étendard. Aussi veut-il que tous ses disciples suivent la voie du calvaire en portant leur croix, pour ensuite expirer sur elle. Ce n'est que par cette voie, que l'on parvient au salut. Le Padre, il va loin quand même, hein, jusqu'à expirer sur la croix. Bon, porter la croix, on veut bien, mais expirer sur la croix, donc vraiment, si le bon Dieu demande vraiment avoir des souffrances jusqu'à un certain paroxysme, vraiment des souffrances très, très importantes, donc il faut porter notre croix, puis jusqu'au bout, accepter les souffrances, et même être crucifié, s'il le faut, par la souffrance. Dans une autre lettre aussi, il dit, en parlant d'une épreuve à une personne, donc cette épreuve aussi sera pour le triomphe de la gloire de Dieu et pour la sanctification de votre âme. Donc il parle bien encore de la sanctification de notre âme. Et à chaque fois que l'on mérite, vous savez, eh bien cela est pour la gloire de Dieu. Hein. Ça, c'est cette gloire, bon, pas la gloire qu'on appelle essentielle. Bon, Dieu est parfait, donc on ne peut pas augmenter la gloire de Dieu, c'est impossible. Mais par les créatures, on peut augmenter, on a ce qu'on appelle une gloire accidentelle, donc une gloire qui est due aux créatures, et qui vient de Dieu, évidemment, c'est Dieu qui fait cette gloire donc, des créatures. Et non seulement il y a purification, mais le bon Dieu s'occupe de nous aussi, de notre éternité. Un exemple, c'est Sainte Gertrude, qui avait une amie, qui était malade, gravement malade. Alors, elle se met à prier pour cette amie. Elle prie. Et au bout d'un certain temps, notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît et lui dit, « Gertrude, tu m'embêtes. »« Seigneur, je vous embête. Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Gertrude, tu m'embêtes par ta prière. » Cette maladie de ton amie, c'est moi qui lui ai envoyé. Elle l'a acceptée avec un cœur généreux et d'une manière remarquable. Par ses souffrances qu'elle accepte, eh bien, je lui prépare un ciel plus beau. Tu voudrais que m'arrêter dans mon œuvre ? Non, non, Seigneur. Non. Donc, arrête tes prières. Donc, Sainte Gertrude n'a plus prié pour son ami. Non seulement cette amie de Sainte Gertrude était déjà donc avancée dans les voies spirituelles, donc elle avait certainement déjà son âme qui était purifiée, mais notre Seigneur allait encore au-delà pour lui faire gagner encore des mérites pour augmenter sa gloire dans l'éternité. C'était le but des souffrances. Et donc évidemment, Sainte Gertrude ne le savait pas. Bon. Voilà, donc on ne voit pas évidemment donc tous ces tenants et aboutissants de la souffrance. Bien. Ensuite, j'ai noté une phrase assez intéressante du Padre Pio, un échange merveilleux qu'il y avait entre le Padre Pio et notre Seigneur Jésus-Christ. C'était au début de sa vie religieuse, on est en 1913. Donc il écrit à son directeur spirituel, le père Agostino, et il lui dit « Jésus me dit que dans l'amour, c'est lui qui me réjouit. Dans la souffrance, au contraire, c'est moi qui le réjouis. Désirer à présent la santé serait aller à la recherche de la joie pour moi et non chercher à soulager Jésus. Oui, j'aime la croix et seulement la croix. » Donc, vous voyez, une sorte d'échange un petit peu. Bon, c'est vrai que le Padre Pio n'a pas eu que des souffrances. Bien sûr, vous savez que les saints, même s'il y a beaucoup de souffrances, Il y a certaines consolations spirituelles, par exemple, le Padre Pio, bon, on voyait de temps en temps, donc, par exemple, l'enfant Jésus, où il y a des apparitions. Donc, quand il y a ce genre de manifestation spirituelle extraordinaire, il y a une certaine peine, un certain bonheur qui est donné. Bien évidemment, il y a une sorte de, pas une compensation, mais il y a toujours quelque chose qui est donné. Mais ça n'enlève pas la souffrance, bien sûr, qui est toujours présente et qui est vraiment, on pourrait dire, la plus forte. Oui. Mais le Padre Pio avait bien compris, déjà dès le début de sa vie religieuse, il était malade très vite, hein, il a eu des souffrances à subir. Mais lui, si on peut dire, faisait plaisir à notre Seigneur en souffrant et en aimant sa souffrance. Et donc, de temps en temps, bon, notre Seigneur Jésus-Christ lui faisait plaisir en lui donnant quelques joies, quelques consolations. Bon. Mais il voulait surtout, lui-même, le Padre Pio, consoler notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut voir aussi dans la souffrance cet amour qu'on a pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui montrer en acceptant la souffrance. Évidemment, donc, le langage de la croix est toujours dur, a toujours été dur. Hein, il est dur à la nature, bien sûr, on le comprend bien. Et encore plus dur aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce que nous baignons dans un monde anti-chrétien. On pourrait dire qu'on baigne au milieu des anti-croix. C'est la société de consommation, donc toutes les facilités matérielles au possible. Donc c'est tout pour éviter la croix, tout pour éviter la souffrance, vraiment tout, tout, tout. Et au bout du compte, eh bien, nos contemporains, il y a encore la croix, il y a encore souvent la désillusion ou un vide. Il manque l'essentiel, il manque la spiritualité, il manque notre Seigneur Jésus-Christ, il manque le bon Dieu, tout simplement. Donc ce n'est pas en refusant la croix, hein, comme le font nos contemporains, qu'on peut s'en débarrasser. Même ça peut devenir plus lourd, plus difficile. Hein. Ça, vous le savez bien. Bon. Et c'est pour cela que, pour nous, il faut se retremper souvent, vraiment, dans une atmosphère chrétienne. C'est une société chrétienne. Donc, par exemple, les retraites, c'est très bien, parce qu'on se retrempe un petit peu dans une vie vraiment chrétienne. Et puis aussi, ça me fait penser, c'est ce qui est vraiment triste, c'est qu'aujourd'hui, dans l'Église aussi, on essaie de gommer, d'effacer tout ce qui fait penser à la souffrance. Par exemple, à Ars, dans l'ancien presbytère du Saint-Curé, il y avait donc différentes choses exposées, notamment les instruments de pénitence, bon, sa discipline. Ça a disparu. Bon, il n'y a pas que là, mais en général, donc l'Église aujourd'hui veut faire disparaître, faire tout disparaître de ce qui peut faire penser à la souffrance, à l'expiation du péché, etc. Donc c'est dramatique parce que c'est au détriment des âmes. Aujourd'hui, les âmes, avec l'enseignement de l'Église, n'ont plus la réalité. Non plus cette réalité de la vie. Hein. Bon, on dit toujours, tout le monde est sauvé, bon, il n'y a plus rien à faire, c'est terminé. Donc, mais bon, là, les âmes ne comprennent plus. Après, quand on leur commence à leur parler, bon, notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, il a souffert toute sa vie, bon, nous, on doit le suivre, on doit l'imiter. Bon, non. Après la mort, on peut aller au purgatoire. Alors, les personnes ne comprennent plus. Malheureusement, c'est l'enseignement de l'Église actuelle. Parce que, bon, on refuse la croix, on refuse le chemin que le bon Dieu nous a tracé. Hein. Donc, il n'y a pas d'autre voie, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ, et comme l'enseignait souvent le Padre Pio aussi. Hein. À ce propos, j'ai noté une toute petite phrase d'un père, du père Melchior, donc, qui a écrit sur Padre Pio, et qui dit: La science de la croix nous fait vivre dans le monde réel. C'est très important de noter ça. La science de la croix nous fait vivre dans le monde réel. Ça nous remet à notre place, ça nous remet vraiment dans la réalité de ce monde. ce monde qui est donc après le péché originel, donc un monde déchu et contre lequel il faut lutter et savoir le moyen, évidemment. Le moyen, c'est la croix pour lutter et revenir, être restauré, si on peut dire, autant qu'on le peut sur cette terre. Voilà. Et le Padre Pio disait aussi Jésus est Jésus glorifié est bien beau, mais je crois qu'il est encore plus beau crucifié. C'est tout à fait vrai. Ça va vraiment dans ce sens-là. Donc il ne faut pas nous tromper de bonheur. Il ne faut pas nous tromper de bonheur. Il ne faut pas fuir la croix. Il faut l'accepter. Alors, il y a différents degrés, évidemment. Ce qui est le plus difficile, c'est quand une croix est inattendue. Alors là, ça, c'est difficile parfois, donc on est surpris. Et ça peut être difficile et long à l'accepter. Mais le réflexe, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous est pénible, qui y arrive, eh bien, demander la grâce de l'accepter. Accepter les souffrances que le bon Dieu nous envoie. Et ensuite, après, demander aussi l'amour de la croix, c'est-à-dire demander cet amour de Dieu qui nous permette d'aimer l'épreuve qu'il nous envoie. C'est la deuxième chose. Et après, ensuite, si on est très généreux, ben, demander d'envoyer des croix. C'est ce que faisaient les saints. Hein? Donc, et vous connaissez aussi cette phrase célèbre de Saint Louis-Marie d'Hombefort, « Une journée sans croix, quelle croix !» Bon. On peut dire, bon, on pourrait peut-être pas laisser un peu les saints de côté, 5 minutes. non, mais cela peut se faire pour nous aussi. Demander une croix, c'est pas forcément demander la croix de Sainte Véronique Giuliani, non. Non, ça peut être pour nous aider à nous sanctifier. Je prends un exemple très simple. Bon, si on a parfois, on veut se corriger de certains actes d'amour propre ou d'orgueil, bon, ben on peut demander le matin dans sa prière, écoutez, mon Dieu, envoyez-moi une petite humiliation, une petite pour essayer de m'aider à me corriger de mon amour propre. Ouais. Alors si on demande ça dans sa prière le matin, en général, ça arrive bien, hein. Le bon Dieu, il écoute bien. Donc, puis quand ça arrive, il ne faut pas faire le nez. Hein. Quand on se prend une petite remontrance, ah, ça y est, ah, c'est ça l'humiliation. Donc, vous voyez ça, par exemple, on peut demander une croix de ce genre-là, demander quelque chose, une petite croix pour notre journée, pour nous aider à nous sanctifier. Le bon Dieu nous enverra quelque chose qui nous va bien. Hein, donc. Il nous connaît très bien. Donc, vous voyez. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est ces étapes. Hein. C'est d'abord, cette acceptation, ensuite cet amour de la croix, et puis bon, arriver à peut-être cette générosité de demander quand même aussi bon, une petite épreuve pour nous corriger de ça ou ça, etc. Voilà un petit peu le chemin de la croix pour nous, chaque jour. Et puis, nous souvenir, ça c'est le dernier point avant de conclure, nous souvenir que nous ne sommes pas seuls à porter notre croix. Notre Seigneur Jésus-Christ a déjà porté sa croix, il l'a aussi porté pour nous. Même si la croix paraît longue, c'est-à-dire une épreuve longue, et si on semble ne pas pouvoir s'en sortir, ben nous sommes quand même soutenus. Même si la croix nous paraît insupportable, bien, il faut surtout pas faire comme les chats, faire le gros dos, parce que là, ça devient encore plus difficile. Non, et il faut être sûr que Dieu ne nous abandonne pas, même si on pense que vraiment tout est fini. C'est vraiment l'apocalypse pour nous, dans nos souffrances. Voici ce que dit le Padre Pio encore à ce sujet, donc à une pénitente, une de ses filles spirituelles, je crois, dans une lettre. Ne dites pas que vous êtes seul pour gravir le calvaire et que vous vous trouvez seul pour lutter et pour pleurer, car Jésus est avec vous et il ne vous abandonnera jamais. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment présent et nous soutient. Ça, c'est vraiment une constance. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé, il me semble que j'ai parlé des souffrances de Sainte Catherine de Sienne qui était très tentée et que notre Seigneur lui a dit, quand tu étais tentée, j'étais là dans ton cœur et je te soutenais, je te donnais les grâces pour vaincre. Et j'étais là vraiment dans ton âme, très, très proche de toi. Et de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ nous soutient, nous, dans nos épreuves. Voilà. Et pour continuer encore donc, et préciser, je citerai encore une autre lettre du Padre Pio qui disait que « Voici ce que je te dis », donc il dit encore une personne, je crois que c'est une de ses filles spirituelles, « Voici ce que je te dis, le Seigneur veut te conduire au milieu des épines parce qu'il veut te rendre semblable à lui. » Dans la souffrance aussi, il y a une conformité. C'est dans la mesure où on ressemble vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien que l'on sera aussi ressemblant à notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. C'est comme on l'a dit encore, c'est la voie unique. Donc il y a aussi une conformité dans la souffrance. Quand on souffre, eh bien on est conforme à notre Seigneur Jésus-Christ en cette vie. Et puis, bien se souvenir des grâces qu'on peut obtenir. Là, c'est encore une citation de Padre Pio. Jésus a besoin de celui qui gémit avec lui à cause de l'impiété humaine. Et c'est pour cela qu'il te conduit par la voie douloureuse. Donc le bon Dieu aussi a besoin de nous, peut-être, pour convertir une âme à l'autre bout du monde ou pour empêcher, des actes impies, je ne sais pas. On ne sait pas ce que peut faire le bon Dieu de notre souffrance aussi. Il faut voir que le bon Dieu peut nous demander certaines choses et qu'on ne connaîtra qu'après notre mort. Et en même temps, donc à ce niveau-là, donc bien estimer la souffrance, le Padre Pio disait aussi « Estime-toi très heureuse d'avoir été rendue digne et de participer aux souffrances de l'homme-Dieu ». Il disait encore, bon, c'est un honneur de souffrir. Padre Pio disait, c'est un honneur de souffrir. Et d'ainsi participer aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il avait encore une autre expression dans une autre lettre. Les souffrances sont des pierres précieuses pour l'âme. Donc ça, c'est l'autre côté, donc pour notre âme, mais aussi pour le besoin de l'humanité. Aussi, on peut avoir à souffrir quelque chose. Donc pour conclure, ne jamais oublier notre fin, notre but, donc, que cette vie est bien courte, on le verra lorsqu'on aura quitté ce monde, et qu'il faut bien l'utiliser, donc, et surtout savoir utiliser les souffrances. Et à ce propos, le Padre Pio disait encore, dans l'une de ses lettres, le jour du jugement universel, nous verrons ces âmes qui, sans avoir versé leur sang pour la foi, nous les verrons, dis-je, couronnées avec les martyrs, avec la palme du martyr. Oui, on ne verra qu'au jugement général, c'est vrai. Donc, on sera peut-être même surpris par certaines âmes qui auront un degré de gloire très élevé, et qui pourtant n'avait sur cette terre que, je dirais, un aspect bien méprisable, qui ont même passé inaperçus dans cette vie, et qui pourtant seront donc dans les âmes, les personnes les plus importantes au ciel, dans l'éternité. C'est très mystérieux. Et surtout, le Padre Pio continuellement encourageait. Il parlait certainement de la croix des souffrances, mais il encourageait. Notamment à l'une de ses filles, courage et que la croix ne t'effraie pas. Donc, ça ne doit pas nous effrayer. Jésus est infiniment miséricordieux et ne manquera jamais de vous donner de temps en temps un doux répit dans l'épreuve à laquelle il vous soumet. Voilà. C'est pas interdit non plus, quand on a une épreuve, de dire, bon, écoutez, j'accepte bien l'épreuve, mais là, ça fait un petit moment, j'aimerais respirer un peu. On peut faire cette prière, mais on peut demander un petit peu de reprendre. Et puis après, une fois qu'on a repris, bon, allez-y, mon Dieu, redonnez-moi la croix, j'y vais. Voilà. Donc, souffrance, certes, mais dans la confiance et l'amour. Et ne pas oublier, surtout, de demander l'aide de Notre-Dame des Sept Douleurs, bon, qui vraiment, elle, étant une maman, la maman spirituelle de nos âmes, est là avec son fils vraiment pour nous aider. Donc, voilà. Donc, juste une petite annonce. On va aller à la chapelle pour une petite prière. J'avais mis, je ne sais plus qui s'est inscrite pour un rendez-vous maintenant avec moi, mais j'avais mis 10h10, mais j'ai avancé à 10h. Donc, je ne sais pas la personne qui s'est inscrite. Donc, j'ai changé un petit peu les horaires pour les rendez-vous avec moi. Donc, voilà, à 10h pour le premier rendez-vous.